Le journal présenté par Laura Dulieu.
Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de ce journal, un Donald Trump satisfait de lui-même après l'accord conclu entre la Turquie et la Russie sur la Syrie après l'offensive turque il y a 2 semaines. Les détails avec Christian Chéneau en début de journal. La Bolivie qui attend toujours des résultats définitifs pour son élection présidentielle. Des résultats pour l'instant partiels, très contestés par l'opposition. Le président sortant, donné vainqueur, dénonce un coup d'État. On retrouvera Alice Campagnol sur place. En France, demain, des sénateurs se rendront à Rouen sur le site de l'usine Lubrizol un mois après l'incendie. Le président de la commission d'enquête du Sénat est l'invité de ce journal, la commission qui a auditionné hier le patron du groupe Lubrizol. Enfin, nous irons à la Réunion où Emmanuel Macron démarre une visite mouvementée. Un appel à la grève générale a été lancé. Après l'accord sur la Syrie conclu entre la Turquie et la Russie, les deux pays commencent à mettre en place leurs arrangements de sécurité dans le nord-est du pays. Et pendant ce temps-là, Donald Trump s'est réjoui de la tournure positive des événements dont il s'est arrogé le succès. Christian Chéneau.
Mission accomplie pour Donald Trump qui se frotte les mains. Pour lui, le retrait des soldats américains juste avant l'offensive turque contre les Kurdes est un succès. Il peut donc maintenant relâcher la pression sur Ankara.
J'ai donc donné l'instruction au secrétaire d'État au Trésor de lever toutes les sanctions imposées le 14 octobre en réponse au déclenchement de l'offensive turque contre les Kurdes. Nous avons sécurisé le pétrole. Un petit nombre de soldats américains restera sur place dans les zones où il y a du pétrole que nous allons protéger. Et on verra ce qu'on en fera dans le futur. Mais dans tous les cas, avec notre initiative, nous avons créé une région plus stable et plus pacifiée entre la Turquie et la Syrie grâce à cette zone de sécurité de 20 miles.
Pas sûr que le scénario imposé par Donald Trump réjouisse ses alliés comme la France, présente sur le terrain avec des forces spéciales, visiblement exaspérés par la stratégie erratique de Washington. Emmanuel Macron considère que l'abandon des Kurdes par les États-Unis affaiblit la crédibilité de Washington et au-delà des Occidentaux face aux Russes et aux Turcs, grands bénéficiaires du retrait américain dans le nord-est syrien.
Christian Chéneau, et selon un haut responsable américain envoyé spécial en Syrie, ce sont plus de 100 prisonniers du groupe État islamique qui se sont échappés depuis l'offensive turque contre les Kurdes. Nous ne savons pas où ils se trouvent, a précisé l'émissaire. En Israël, le président Rivlin a officiellement confié ce soir à Benny Gantz la mission de former un gouvernement. Après l'échec du Premier ministre Benjamin Netanyahou, c'est la plus longue impasse politique de l'histoire du pays. Aucune coalition n'a pu être formée depuis les élections anticipées du 17 septembre. Benny Gantz, ancien chef de l'armée et adversaire de Benjamin Netanyahou, a désormais 28 jours pour former un gouvernement. Une grève générale et toujours pas de résultat définitif en Bolivie, où l'incertitude règne depuis l'élection présidentielle de dimanche. Si les derniers résultats, toujours partiels, donnent le président sortant Evo Morales gagnant dès le premier tour, l'opposition dénonce une fraude électorale. Ce matin, le président a dénoncé un coup d'État. Sur place, Alice Campagnol.
Le chef de l'État est apparu combatif et déterminé, prêt à défendre la démocratie, a-t-il dit. Il a affirmé « Nous ne sommes plus au temps de la colonie, on ne peut pas imposer un président de cette façon ». Il est convaincu que l'opposition complote contre lui.
J'ai organisé cette conférence de presse pour dénoncer devant les citoyens boliviens, le monde entier, qu'un coup d'État est en cours. En réalité, nous le savions déjà, la droite s'est préparée à ce coup d'État avec l'appui de forces étrangères.
Pour Evo Morales et ses partisans, il est évident qu'il a de nouveau gagné les élections pour un 4e mandat à la tête de la Bolivie. Il a appelé à la mobilisation de ses partisans et s'il a assuré qu'il ne rentrerait pas dans la confrontation, le ton de son discours semblait dire autre chose. Plutôt, nous sommes prêts à en découdre. Pour le moment, il manque toujours une partie du décompte des voix, environ 5%, et selon le président, ce sont les opposants qui empêchent la fin de ce processus. La Bolivie est plus polarisée que jamais. D'un côté, les partisans d'Evo Morales, convaincus de la victoire du chef de l'État, et de l'autre, ses opposants, persuadés qu'une fraude électorale est en cours et qu'il devrait y avoir un second tour à cette présidentielle. Et le discours du président ce matin n'a pas apaisé la situation.
Alice Campagnol à la passe pour France Culture. Crise également au Chili, où le dernier bilan fait état de 18 morts lors des manifestations. Une grève générale a débuté aujourd'hui et les syndicats appellent à la poursuivre demain. Une grève contre les hausses de prix et les abus du pouvoir. Et ce, malgré les mesures proposées par le président Sebastián Piñera pour apaiser la population. En Europe, les 27 de l'Union européenne d'accord sur le principe d'un report du Brexit, mais ils discutent toujours d'une nouvelle date. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, recommande aux États de choisir le 31 janvier 2020. Et ce drame en Grande-Bretagne où 39 corps ont été retrouvés dans un camion à l'est de Londres dans une zone industrielle. Le camion venait de Belgique. Le chauffeur originaire d'Irlande du Nord a été arrêté. Si beaucoup de migrants tentent de rejoindre le Royaume-Uni en se cachant dans des camions, les autorités n'ont pour l'instant pas donné de précision sur l'identité ou l'origine des victimes. À Rouen, les opérations pour enlever les fûts endommagés de produits chimiques ont commencé ce matin sur le site de l'usine de Lubrizol. Ces fûts sont d'abord traités avec un robot, puis retirés. Au total, 160 fûts de 200 kg chacun doivent être enlevés, puis incinérés dans un centre de traitement de déchets dangereux. Mais les inquiétudes persistent à propos des risques sanitaires. Le président du groupe américain Lubrizol, Eric Schnur, était auditionné hier, le matin par les députés dans le cadre d'une mission d'information et l'après-midi par les sénateurs dans le cadre cette fois d'une commission d'enquête qui a plus de pouvoir. Le président de cette commission d'enquête, le sénateur Hervé Maurey, est l'invité de ce journal. Bonsoir.
Bonsoir.
Le président de cette... Et Hervé Maurey, vous avez entendu les explications d'Eric Schnur hier après-midi. Globalement, avez-vous été convaincu ?
C'est clair que nous n'avons pas été totalement convaincus par un certain nombre de points et nous avons eu l'occasion de le lui dire, notamment lorsqu'il indique que les fumées dégagées par l'incendie n'ont pas plus de toxicité que celle d'une maison qui aurait subi un incendie, lorsqu'il nous indique également que toutes les analyses indiquent qu'il n'y aurait aucun problème. Nous lui avons évidemment demandé de détailler ces allégations et de nous fournir dans les meilleurs délais, des éléments tangibles, c'est-à-dire des analyses ou des expertises permettant de confirmer ces propos. Voilà notamment un point sur lequel nous restons, et c'est un point évidemment très important, l'impact sur la santé de ces événements, un point sur lequel nous restons encore assez interrogatifs. Nous n'avons pas à ce moment d'éléments permettant de savoir s'il y a vraiment un impact sur la santé, s'il y a un risque sanitaire ou pas. Mais on n'a pas non plus d'éléments nous permettant d'être certains du contraire. Et comme l'une des missions de la commission d'enquête, c'est d'essayer de faire toute la lumière sur la réalité de ces faits, avant de nous faire un jugement, d'émettre un avis, on veut autre chose que simplement des déclarations, qu'elles soient de M. Schnur ou de n'importe quelle autre personne. On aura aussi à s'interroger sur la véracité des propos qui seront tenus par les ministres qui viendront devant la commission d'enquête. Ce n'est pas spécifiquement M. Schnur dont nous pouvons éventuellement mettre en doute la véracité des propos, c'est l'ensemble des personnes qui seront auditionnées. Et je rappelle que justement devant une commission d'enquête, contrairement à une mission d'information, les personnes auditionnées prêtent serment et si elles livrent des informations erronées, elles sont passibles d'amende et même de peine de prison. Donc c'est quelque chose de très rigoureux et de très strict.
Et justement, j'en viens aux autorités qui avaient annoncé 5000 tonnes de produits brûlés avant de rectifier à 10 000 tonnes. Est-ce qu'il n'y a pas eu un gros problème de communication et de transparence de la part des autorités de Lubrizol qui nie tout risque pour la santé ?
Il y a eu d'une manière générale, et c'est un petit peu cela aussi qui nous a conduit à souhaiter constituer cette commission d'enquête, il y a eu une espèce de cacophonie avec des ministres qui se sont succédés à Rouen, qui se sont contredits entre eux, qui se sont parfois même contredits eux-mêmes d'un jour à l'autre. Et c'est vrai que la pression médiatique pousse chacun, et notamment les responsables politiques comme les ministres, à très vite communiquer, très vite donner des informations qui ne sont pas forcément vérifiées et qui sont parfois même contredites quelques heures après. Et c'est donc pour cela qu'il faut vraiment, avec beaucoup de sérieux et de rigueur, essayer de vérifier tout cela pour faire toute la lumière et au-delà de faire la lumière sur ces événements, en tirer des conséquences pour l'avenir.
À propos des agriculteurs touchés par les conséquences de l'incendie, Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, estime que leur préjudice est entre 40 et 50 millions d'euros. Eric Schnur assure qu'il y participera. Qu'est-ce que vous attendez de lui ?
Nous, on attend de M. Schnur, qui a d'ailleurs donné des assurances sur ce point, qu'il assume ses responsabilités et qu'il dédommage l'ensemble des victimes, que ce soit les agriculteurs ou les commerçants ou les riverains. La difficulté actuelle, c'est d'évaluer réellement le préjudice. Il y a des préjudices qui sont faciles à évaluer, d'autres qui sont beaucoup plus compliqués. Un membre de la commission d'enquête faisait justement remarquer hier à M. Schnur qu'il était vraisemblable que dans sa région, qui en plus n'est pas la région Normandie, mais la région Hauts-de-France, qui est juste à côté, l'incendie ait eu des conséquences sur la teneur en sucre des betteraves. Donc vous voyez que ça induit un préjudice, mais qui est très difficile, en tout cas aujourd'hui, à évaluer. C'est pour ça que c'est important d'avoir des dispositifs qui permettent de faire le relais, d'avoir des avances de trésorerie. C'est ce qu'a décidé notamment la région Normandie, qui a voté un dispositif en ce sens il y a quelques jours, parce que les indemnisations vont prendre du temps. Mais il faut évidemment que l'entreprise Lubrizol, qui est responsable civilement, c'est à elle de supporter les coûts de ces événements, c'est évidemment pas aux contribuables, il faut qu'elle assume pleinement ses responsabilités.
Vous vous rendez demain sur place à Rouen avec les membres de la commission d'enquête. Quel est le programme de cette visite et qu'est-ce que vous en attendez ?
Le programme de cette visite, c'est en premier lieu de se rendre sur le site pour voir ce qui s'est passé, enfin voir dans quel état est le site et essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé, de rencontrer les responsables de l'entreprise pour échanger avec eux, de rencontrer également les représentants des salariés. Ensuite, nous avons prévu une réunion à la préfecture de région avec le préfet, mais aussi avec l'ensemble des services de l'État pour les écouter et leur poser un certain nombre de questions sur la manière dont ces différents services sont intervenus. Et enfin, nous aurons un troisième temps avec une table ronde qui réunira les élus du territoire, mais aussi les représentants des chambres consulaires, chambres de commerce, chambres d'agriculture, chambres de métiers, et un certain nombre d'associations représentatives de la population.
Merci Hervé Moret d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes sénateur et président de la commission d'enquête du Sénat sur l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Ce sera également le sujet du 7h24 de demain matin. France Culture a rencontré des habitants de Rouen qui demandent des réponses à leurs inquiétudes. Après Mayotte, Emmanuel Macron est arrivé à La Réunion. Le département est en plein mouvement social. Les syndicats appellent à la grève générale demain. 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. La visite du chef de l'État s'annonce donc mouvementée, Cyril Graziani.
Après le calme et le sable fin des îles Glorieuses où il a foulé le pied ce matin, changement clair et net de décor à La Réunion. Il arrive sur un volcan, au sens propre comme au sens figuré. Emmanuel Macron est attendu au tournant sur l'île et dès sa descente de l'avion, il a tenté de se montrer à l'écoute des Réunionnais.
C'est peut-être d'ailleurs à La Réunion qu'il y a eu, au moment de ce qu'on a appelé la crise des Gilets jaunes, la plus grande colère qui s'est exprimée. Cette colère, elle avait des explications, ce sont les difficultés du quotidien. Je veux ici dire à toutes les réunionnaises et tous les réunionnais, que le gouvernement est engagé tout entier, leurs élus et le président de la République, pour apporter des réponses concrètes. Ça ne se fera pas en un jour, mais nous allons réussir. Et nous pouvons le faire.
Les Gilets jaunes réunionnais, justement, une centaine d'entre eux, l'a attendu plusieurs heures sous des trombes d'eau à bord d'un rond-point tout proche de l'aéroport, des ballons jaunes à la main. Encadrés par les forces de l'ordre, ils n'ont pas réussi à voir le cortège car peu avant le passage du président, ils ont été repoussés avec des gaz lacrymogènes. Certains jeunes ont répondu par des gels bouteilles. Les manifestants, eux, ont promis au président de lui faire vivre l'enfer pendant ses 48 heures sur l'île.
Cyril Graziani, envoyé spécial à La Réunion. 5,6 millions d'euros récoltés en 9 mois, c'est le bilan dressé aujourd'hui par Gérald Darmanin de la loi antifraude fiscale votée il y a un an. Gérald Darmanin qui s'est montré très satisfait de ce chiffre au siège de la direction du contrôle fiscal d'Île-de-France. Selon le ministre des Comptes publics, les recouvrements d'impôts ont augmenté de 40%. Alors comment expliquer cette augmentation ? Élément de réponse avec Pauline Renoir.
D'abord, la lourde amende infligée à Google, près d'1 milliard d'euros en septembre dernier, et un nouveau catalogue d'outils qui ont vu le jour avec cette loi antifraude. Depuis un an, un fraudeur a la possibilité de plaider coupable avant sa comparution, et une entreprise peut négocier une amende sans procès. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, fait le bilan.
C'est-à-dire que nous sommes passés, si on compare, de 4 milliards d'euros de fraude constatée à 5,6 milliards d'euros. Et par ailleurs, les mises en recouvrement, c'est-à-dire ce qu'on a demandé aux gens de nous rendre, parce qu'ils ont été manifestement condamnés ou confondus de fraude fiscale, on est passé de 11 à 13 milliards, c'est-à-dire que nous avons une capacité d'ici la fin de l'année à atteindre un record très important, déjà dépassé, de fraude fiscale qui a été remboursé à l'État français.
Depuis un an, Bercy doit transmettre à la justice les dossiers de fraude les plus graves, au-dessus de 100 000 euros. Grâce à cela, la place Vendôme s'est emparée cette année de 587 signalements. La loi antifraude a aussi permis de créer une police fiscale qui traque les délinquants.
Aujourd'hui, la police fiscale, elle a des moyens très importants de mise en garde à vue, de filature, de géolocalisation et de confondre aussi les montages. Parce que ce qui était très important, c'est de voir comment on avait des montages de fraude. On s'évade rarement tout seul, on est souvent accompagné. Tout ça, la loi fraude le permet désormais.
À la tête de cette nouvelle police fiscale, il y a une magistrate et dans les prochaines semaines, une quinzaine d'officiers devraient être recrutés.
Pauline Renoir, les intempéries dans le sud de la France et les premières conséquences sur les trains. La SNCF suspend son trafic entre Sète et Narbonne jusqu'au 4 novembre à cause de gros dégâts. Des vides de parfois 10 mètres sous les voies à cause de la pluie. D'ici là, les trains auront pour départ et arrivée la gare de Montpellier. La météo est donc agitée. 6 départements sont en vigilance orange. Il s'agit de la Haute-Corse, le Var, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse pour les orages, pluies et inondations. L'Hérault pour les crues et les Alpes-Maritimes pour les vagues submersions. Ailleurs, c'est pluvieux sur l'ouest du pays, de l'Aquitaine à la Normandie, des nuages sur le nord-est et l'Occitanie. Les températures minimales iront de 9 à 14 degrés, 15 à 17 autour de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia et Pierrick Monsigny à la technique.